I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100pourchanvre.com, vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASUEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides, ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust.
Salut Guillaume.
Alors, on va parler aujourd'hui d'Anthony Joshua. Et là, on est assez hypé parce que là, il y a un nouveau Joshua NRV qui visiblement va arriver pour la revanche contre Alexandre Usyk, dont toutes les personnes qui pouvaient se dire mauvaise stratégie pour le premier combat, vous pouvez d'ores et déjà vous dire potentiellement qu'on peut balayer ça parce qu'on va avoir quelqu'un de nouveau qui va être déterminé à marcher sur son adversaire lors de la revanche qui devrait arriver selon Eddie Horn, promoteur d'Anthony Joshua, au printemps 2022.
Ouais, et là, vu ce qu'il a dit, donc dans cette interview qu'on vous conseille d'aller voir, ou qui dure une heure à peu près sur IFL TV, l'interview est fascinante, et c'est de ça dont on va parler en partie, avec aussi un petit peu ce qu'a dit Tyson Fury, parce que les deux se sont grosso modo mis d'accord pour pourquoi pas s'entraîner ensemble, et ça fait beaucoup de trucs très intéressants dont il faut absolument qu'on parle.
Let's go, mais avant toute chose, vous savez, Road to 100G's, donc déjà merci beaucoup parce qu'on a passé la barre des 94 000. On vous prépare donc déjà, c'était acté, de très belles choses, Shada Tatsume pour la fin d'année. Il y a aussi le fameux gros concours des 100 000 abonnés qui arrive, donc merci à tous. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Et aussi, petit point très important, donc merci énormément pour le soutien, pour l'accueil que vous avez réservé à Onaï, notre marque, notre propre marque, faite avec Ben.
Et avec amour.
Et avec Ben et avec amour, de savon 100% made in France naturel. Merci beaucoup, on ne s'attendait pas du tout à ça. Je préfère prévenir.
Le stock de carton non plus.
Exactement. Donc en gros, on a des emballages dans lesquels, donc on a des petites boîtes dans lesquelles on met les savons pour les protéger, et à l'intérieur de ces, au-dessus de ces petites boîtes, on met d'autres plus grandes boîtes. Et on a eu tellement de commandes qu'on n'a plus de grandes boîtes. Donc voilà. Donc si vous avez commandé les savons hier, j'ai fait les derniers paquets, bien aidé par Russ pour les autres fournées, bien évidemment. On n'a plus de boîtes. Donc il faudra juste attendre un petit peu. Là, les nouvelles sont arrivées. Chez mon petit papa et ma petite maman aussi. Donc voilà, on laisse passer le week-end. On est à Paris pour l'UFC notamment. Et puis ensuite, on sera de retour. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'était bien beaucoup trop long comme introduction. On lance le générique.
Mm-hmm.
On lance le générique.
Swear.
On va parler d'Anthony Joshua. Cette semaine aussi, vous avez vu les nouveaux contenus faits par Rust entre le L'Assurance avec Benoît Saint-Denis, où il a charbonné l'introduction. Je vous la recommande très très chaudement. C'était digne de Michael Bay. Et puis l'histoire d'Islam Makhachev, la vraie histoire d'Islam Makhachev, car beaucoup connaissent le combattant, mais peu connaissent l'homme. Ça a été magnifiquement conté par Rust, donc voilà, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne. Anthony Joshua, qui a perdu sa ceinture, enfin toutes ses ceintures mondiales, par décision unanime face à Alexandre Usyk au Tottenham Hotspur Arena de Londres, donc il s'est incliné assez salement, il a failli, enfin salement, assez nettement, pardon, il a même failli se faire finir cette combat
ça,
quelques secondes en plus.
À la fin, quoi.
Et donc là, interview accordée à IFL TV, Ross va vous parler de l'interview dans sa globalité, mais moi je voulais retenir deux citations d'Anthony Joshua, deux phrases de cette interview. Donc, j'en ai fini de perdre, j'en ai fini d'essayer d'apprendre la science, la sweet science, la boxe. Usyk pourrait être balancé par terre, jeté par terre lors de la revanche, parce que ce sera la guerre, ce sera juste une guerre totale. Joshua ajoute, je suis bouillant rien que d'en parler, c'est cette passion de gagner, je n'ai qu'une chose en tête, c'est la guerre, c'est le meurtre, c'est d'aller là-bas, de faire mal au gars et de prendre son âme au point qu'il veuille abandonner. Par rapport à quelqu'un que beaucoup peuvent critiquer parce qu'il est extrêmement lisse, que c'est une machine finalement marketing, là on a On a vraiment l'impression qu'il est sincère dans ce qu'il dit et qu'il a envie de rentrer dans Usyk lors de la revanche et d'adopter un petit peu cette approche à la Tyson Fury de « il y a eu ce premier combat contre Deontay Wilder, ce que je fais d'habitude, qui est de la belle boxe bien évidemment, ça n'a pas fonctionné, là maintenant, bah, faut aller au charbon, quitte à se faire finir.
Bah, » c'est ça qui est bien, c'est que là, il a vraiment la mentalité en tout cas qu'il faut et qu'on espérait en tant que fan du sport pour vraiment avoir un combat qui sera très intéressant le deuxième. Parce que là, la pire des choses, ça aurait pu être qu'il fasse cette interview avec ce gars-là pendant une heure, et qu'en gros, on comprenne en substance que bah, il changera pas grand-chose. C'est genre, imagine, il avait dit, ah, c'était juste pas ma nuit, mais bon, bah, je vais revenir, le game plan était bon, c'est juste que je l'ai mal exécuté, ou enfin un truc comme ça. Là, ça aurait été un petit peu, je pense, ça aurait pu être vraiment alarmant. Maintenant, là, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Là, pendant une heure, il a été lucide et objectif par rapport à tout ce qui s'est passé. Et en plus de ça, il a donc dit qu'au-delà de le dire et au-delà d'en parler, il a déjà commencé, on va y venir, à aller voir et discuter avec d'autres entraîneurs de renom. Donc, en fait, sur toute cette interview, ce qu'il dit en gros, en substance, Anthony Joshua, c'est il n'avait pas la bonne mentalité contre Alexandre Usyk. Il a essayé. Alors, c'est pas lui qui le dit exactement. Le mec lui pose la question mot à mot et il le dit. Et tu comprends qu'il veut dire oui quand le gars lui demande, mais du coup, est-ce qu'on peut le dire? Vous avez essayé de boxer le boxeur. Et en gros, tu comprends qu'Anthony Joshua en mode, bah ouais, au final, ouais. Et donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, il est tellement conscient de ce qui n'a pas été et de ce qui n'a pas marché contre Usyk que, oh nice, que là, il est vraiment en mode, bon bah maintenant, je vais même plus essayer en fait de faire jeu égal techniquement ce qu'il dit dans l'interview, ce que je voulais faire en fait jusqu'à aujourd'hui, je voulais vraiment montrer que je suis un vrai boxeur.
Là, ça te paraît pas bizarre toi?
Pas spécialement.
Okay.
Bah parce que le résultat est là. Le résultat est que quand il affronte il faut dire qu'il affronte le meilleur des meilleurs.
Mais c'est dans ce sens-là, tu vois. Par rapport à la, ça avait marché, ça, cette approche-là, lors de la revanche face à Andy Ruiz. Mais moi, ça m'avait surpris vraiment l'approche qu'il avait eue lors du combat contre Usyk, où on se dit, sur le papier, déjà, il était quand même arrivé assez léger, Anthony Joshua. Mais de se dire, vraiment, il a tous les avantages physiques par rapport à Usyk. Et tu peux pas, à mon sens, en tout cas, rattraper un tel gap technique sur quelqu'un comme Usyk.
Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que, c'est ce que disait Joshua, en fait. Pendant le combat, il avait pas forcément. Alors, ces termes exacts, c'était. Il avait toujours l'impression d'être vraiment à ça de rattraper le train, parce que il disait, bah, j'arrivais à placer des jabs de temps en temps, j'arrivais à le toucher de temps en temps, et du coup, j'étais en mode, ah, c'est bon, I'm still in there, tu vois. Enfin, ah, c'est bon, je suis toujours dans la course, là, je suis toujours dedans, je le touche. Et sauf qu'en fait, ben, alors tu le touches peut-être de temps en temps, mais sur le combat et dans sa globalité, ben, tu te fais globalement manger, en fait. Et c'est ça qui est vraiment assez fascinant, c'est que. Là, il est vraiment, lui, en mode, bon, puisque ça ne marche pas, et que dans la mentalité avec laquelle j'arrivais contre Usyk, ben, il me manquait ce qui a fait que les gros avantages que j'ai, j'aurais pu vraiment les utiliser, c'est-à-dire vraiment le physique, quoi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que disait Tyson Fury, quand Tyson Fury propose à Anthony Joshua d'aller s'entraîner avec, et d'ailleurs, Joshua accepte. C'est ça qui est génial, dans l'interview, il dit, bah, y a pas de souci, en faisant une petite vanne sur, par contre, t'attends pas à être payé, et tout ça, enfin, vraiment, c'est cool, tu vois. Mais, ce qu'a dit Fury, c'est, je suis vraiment prêt à aller aider Anthony Joshua pour lui donner des conseils et lui apprendre comment on boxe en poids lourd. Mais attention, il le dit pas en mode méchant, donneur de leçons. Il dit juste vraiment parce qu'il y a la boxe et il y a la boxe poids lourd. Et en gros, Fury, ce qu'il disait, c'est et là, en gros, il a pas boxé comme un poids lourd. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que effectivement, tu vois, quand tu vois ce qu'a fait Fury contre Wilder. Tu n'as pas meilleure démonstration de quelqu'un qui utilise son physique à son avantage. Il n'y a pas meilleure démonstration que ce qu'il a fait en pesant de tout son poids, avec du clinch, en vraiment le fatiguant et en boxant comme ses attributs physiques le lui permettent. Ça, on l'a tellement pas vu dans le combat d'Anthony Joshua contre Usyk. On a tellement vu un Joshua, effectivement, qui essaie de boxer, mais parce que, et donc la boucle est bouclée, tu vois, par rapport à ce qu'on disait au début, mais parce que du coup, Joshua était vraiment en mode je veux montrer que je peux boxer, je veux montrer que je vais faire jeu égal, que je suis un champion de tous les côtés, et que je peux le battre sur son domaine. Et sauf que non. Et ce qui est bien, c'est que au-delà de se laisser détruire par ça, ce qui ressort de toute l'interview, du coup, c'est que Joshua dit, bah voilà, maintenant, ça va être très simple, en fait. maintenant, je ne vais pas venir pour boxer, je vais venir pour, grosso modo, le démonter. Et c'est-à-dire vraiment dans une logique de destruction où je vais utiliser tout ce que je peux pour lui rouler dessus. Et donc, les attributs physiques. Et c'est ça qui va être cool, quoi. C'est que, à mon avis, il va arriver beaucoup plus lourd. Il va arriver avec une vraie mentalité.
C'est pour ça aussi qu'il a le temps. Hein.
Et c'est pour
printemps
ça qu'il a
2022.
Le temps. C'est pour ça qu'il va, à mon avis, arriver avec vraiment une vraie mentalité agressive, en mode, je vais te marcher dessus. Vraiment dans le sens, je vais avancer et te coincer. Et grosso modo, tu vas vraiment être en mode tank. Et même dans la manière de combattre en mode tank, beaucoup plus qu'en mode artiste, esthète, comme il a presque un petit peu essayé là, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment fascinant. C'est qu'il y a cette... dans le recul qu'il a et les mots qu'il utilise dans cette interview, parce que tu sens qu'il n'est pas vraiment en mode « je fais trop gaffe à la com », tu sens qu'il est vraiment lui-même.
Ouais.
C'est vraiment intéressant. À part ce fameux moment, on en discutait tout à l'heure à la pause déj.
Oui, et à la pause déj, effectivement, quand on était... au self, c'est Anthony Joshua a visité différentes gyms aux États-Unis, se pose la question d'ajouter d'autres entraîneurs à son staff, Eddie Reynoso notamment, qui est entraîneur de Canelo Alvarez, Virgil Hunter, coach de André Ward, mais aussi actuellement de Tony Yoka.
Et Sissoko.
Il a dit des choses par rapport à son ancien coach, et notamment au game plan, donc c'est Rob McCracken.
Rob McCracken. Bah en fait, c'est ça qui... C'est le seul moment de l'interview...
On s'est dit...
Ouais, voilà, où on a fait un peu l'hippopotame sceptique. Sceptique, là, c'est ça le même. C'est... Il a donc... Le gars lui demande, l'intervieweur... Et d'ailleurs, vraiment, j'ai kiffé parce que l'intervieweur... Alors, tu sens qu'ils se connaissent déjà, mais du coup, l'intervieweur n'hésite vraiment pas à le pousser un petit peu. Dans le respect, mais en lui posant les questions que tout le monde aurait envie de poser à Joshua. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'il dit même dans l'interview à un moment donné, mais Joshua se fait de plus en plus rare en termes d'interview. Et du coup, l'intervieweur, le journaliste lui demande, mais alors, quel était le game plan en fait? Quel était le game plan que vous avez mis en place contre Usyk? Et en gros, là, donc, Joshua répond, ah, faudra demander à mes entraîneurs. Bon, Joshua est un mec super intelligent.
Surtout quand
est...
c'est dans une interview d'une heure.
Ouais, voilà, c'est ça, où t'as le temps de développer. T'es pas pris par le temps, t'es pas, putain, merde, j'ai piscine, tu vois, t'es bien. Et il dit, ah, faudra demander à mes entraîneurs, c'est avec eux qu'il faut voir ça. Et ben, évidemment, Joshua, c'est pas un bonnet, et quand il est en camp d'entraînement, évidemment qu'il fait très attention à quel est le game plan, parce que ben, il a envie, un, de comprendre, de savoir, de connaître, que les entraîneurs lui expliquent pour qu'il applique certaines choses ou pas. Le propre d'un combattant intelligent, quoi, qui est capable aussi d'avoir son propre avis sur les stratégies mises en place. Et le fait que, entre guillemets, ils disent juste « Ah, il faudra en parler à mon entraîneur, il faudra voir avec lui », pour toi, c'était le signe que, bon, il est probablement pas d'accord avec la stratégie qui a été mise en place, parce et en plus, il a été prouvé qu'elle n'était pas bonne, mais il n'a pas envie de jeter complètement son entraîneur en pâture, en disant ce qu'il aurait pu dire si ça avait été un petit peu un malandrin. Il aurait pu dire bah ça, c'est le problème, c'est que c'était bon bah c'était le game plan que voulait absolument mon coach, bon bah ce qui n'a pas marché, machin. Je pense aussi que peut-être qu'il n'a pas voulu le dire comme ça, évidemment, parce qu'il est très loyal avec ouais voilà, avec son entraîneur de toujours, etc. Mais c'est le seul moment de l'interview où effectivement il y avait un côté ouais, là il y a un petit peu de, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on n'a pas envie de mettre quelqu'un, de faire passer quelqu'un sous le bus, quoi.
Surtout qu'il ne prévoit pas de totalement exclure son ancien coaching staff.
Ouais, et ça, mais encore une fois, je sais pas comment il va organiser ça, ouais. Mais
à moins de faire juste compliqué. De la figuration, ouais, c'est très compliqué.
Ouais, ça, d'autant plus que lui, Rob McCracken, du coup, il travaille à côté de ça avec les équipes de Grande-Bretagne de boxe anglaise. Donc, je vois mal un gars comme ça, qui a quand même une grosse importance sur la scène britannique, Rob McCracken, je le vois mal être juste là en tant que consultant de temps en temps, ou enfin.
Et puis même, surtout si la stratégie est complètement différente, bah, et qu'en plus Joshua gagne, tu vois, déjà les discussions d'avant-combat vont être particulières, et puis pour l'après-combat, tu vois, les petits regards qui vont s'échanger, ça risque d'être en mode...
Tu bah, vois, et puis en plus de dire, ça, ouais, puis il y a peu de chances que les coachs, le coach avec lequel choisira de se mettre Anthony Joshua, ben, il y a des chances que ce que lui va lui demander de faire, les stratégies qu'il va mettre en place, les game plans, ne soit pas en phase ou ne soit pas le même que celui qu'aurait eu en tête Rob McCracken pour les prochains combats. Et là, bah, forcément, ça poserait problème parce que tu peux pas avoir deux head coach. Ça n'est pas possible par définition. Il faut un head coach.
Donc, mon cher Ross, Joshua était donc arrivé à, c'est ce que je regardais en fait, le poids de Joshua qui était à 109 kilos.
Ouais, voilà.
Pour Usyk, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que le combat était officialisé tardivement pour Usyk et jusqu'à ce combat-là, il devait se préparer normalement pour Tyson Fury fin août parce que McCracken était avec l'équipe de Grande-Bretagne, donc ça ne pouvait pas se passer en même temps que les JO. Arrivant à seulement 109 kilos, qu'est-ce qu'il prévoyait de faire contre Fury? Parce que, et c'est d'autant plus inquiétant, moi, je trouve. Parce que ce qui s'est passé là, un combat est un combat et chaque combat est différent, bien évidemment. Mais tu vois, un Joshua qui serait arrivé aussi dans ces conditions-là face à Fury, ça aurait été très compliqué aussi.
Ah, de la même manière. Mais c'est pour ça que.
Je suis assez surpris, moi.
Vu ce qui se passe là, je sais pas si je suis surpris, parce que du coup, ça veut dire tout simplement, probablement, que la mentalité qu'il avait dans le combat contre Usyk, probablement qu'il l'avait aussi dans ce qu'il voulait faire contre Fury, en mode « je vais boxer le boxeur ». Ça veut dire qu'il était probablement dans le même état d'esprit, en fait.
Donc, toi, ça te paraît pas dingue? Enfin, dingue dans le sens... Enfin, on est quand même dans une situation... Enfin, je sais pas, moi... N'importe quel observateur de la boxe anglaise voit bien que si Joshua doit miser sur quelque chose face à Usyk et face à Fury, c'est d'y aller plus sur son physique que de dire « je vais boxer le boxeur », tu vois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et c'est là où effectivement je pense que peut-être que l'influx de Rob McCracken a eu une importance, parce que peut-être que c'est Rob McCracken avec Joshua qui se sont mis en tête de développer ce boxeur, enfin ce côté artiste esthète, boxeur d'élite. Peut-être qu'ils avaient vraiment ça en tête, peut-être qu'ils travaillaient dessus, c'est juste que ben là le réveil, la réalité, ça n'a pas été Fury, ça a été Usyk, mais c'est un peu le même délire dans le sens des boxeurs d'exception en termes techniques qui lui ont donc donné, entre guillemets, et je dis pas ça méchamment, mais la leçon de boxe en fait. Mm-hmm. Donc c'est simplement que là ça a été contre Usyk, ça aurait probablement été pareil contre Fury, peut-être même pire parce que Fury il fait plus mal.
Mais c'est pour ça. Enfin moi vraiment je suis assez surpris par ça, tu vois.
Après d'un autre côté c'est vrai que bah, comme tu l'as dit les styles font les combats et contre Fury n'est pas aussi rapide que Usyk et il a pas les mêmes déplacements non plus. Donc peut-être que ça aurait été totalement différent contre Fury. Je pense malgré tout qu'il se serait fait dépasser techniquement en essayant de boxer Fury, mais ça aurait peut-être été totalement différent. Peut-être
techniquement qu'il aurait... et physiquement.
Ouais. Mais malgré tout, et c'est pour ça que je suis vraiment très curieux, et je pense que c'est ça qui est bien, mais on aura un jour probablement le Fury versus Joshua, j'espère pas trop tard quand même,
ouais.
Mais je suis quand même encore très très curieux d'avoir ce combat.
Mais vraiment, surtout que personnellement, hein, moi je sais qu'à chaque fois je me fais déchirer pour ça, ouais. Mais le premier combat Andy Ruiz, Anthony Joshua, vraiment tout se passait bien jusqu'à ce que, comme ça lui est déjà arrivé au cours de sa carrière, Joshua il rush un petit peu chaque fois qu'il touche un adversaire, il a tendance à un petit peu voir rouge et à se dire je vais le finir directement, et il se fait choper par Andy Ruiz, et là forcément il se prend vraiment un sale coup qui traîne tout au long du combat, il arrive même pas à récupérer, donc ça fait que c'est une défaite au bout. Mais jusqu'à ce moment-là, il met knockdown Andy Ruiz, ensuite il enchaîne avec un bras arrière monstrueux que Ruiz il encaisse, enfin on sait pas comment, et ensuite il se fait cueillir, et là tout, enfin rien ne va plus. Mais depuis ce combat-là, Joshua n'a jamais été aussi lourd qu'avant, il a adopté une différente stratégie pour la revanche, et on n'a plus vraiment le même Anthony Joshua. Mais pour moi, en soi, un Joshua qui arrive vraiment en mode tank, c'est la meilleure des choses. Et tu peux pas rattraper tout ce retard-là face à des mecs qui ont boxé de cette manière quasiment toute leur carrière, tu vois. Enfin, surtout à ce niveau, en plus.
Non, c'est sûr. Après, c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est dans un monde parallèle où Joshua n'a jamais perdu ses 10 kilos, ouais. Et où il est resté le tank et où il s'est fait à un moment donné, je sais pas, monde parallèle, hein, détruire par Wilder et puis Fury. Bah, peut-être que tout le monde lui aurait dit bah ouais, mais mec, au lieu de te concentrer sur ton physique, il aurait peut-être fallu développer tes capacités de boxeur, tu vois. Et en fait, je me dis, c'est presque injuste, parce que ça se trouve, c'est vraiment ça qu'il essaye de faire, et preuve en est, c'est ce qu'il dit, tu vois. Il a essayé vraiment de développer sa boxe, de développer le noble art de devenir l'élite de la boxe avant de devenir une élite physique.
Ce qui est noble.
Et ce qui, au final, ben là, tu vois, si on compare les différentes branches parallèles de Doctor Strange, ben pour moi, à la limite, c'est la version de la réalité dans laquelle on peut le moins lui en vouloir, parce qu'il a constamment cherché à évoluer. Il a constamment cherché à devenir le meilleur boxeur, le boxeur optimal qu'il avait avec sa génétique et avec sa capacité d'apprentissage. Je pense que juste c'était un travail pour essayer de... Parce que peut-être que du coup les combats d'avant ils se sentaient trop lourds, peut-être que contre Klitschko bah, ils se sentaient trop lourds et que, du coup il s'était dit bon bah je vais essayer de descendre un peu, devenir plus technique, j'aurai de toute façon toujours ces avantages physiques puisque bah, je suis un monstre. Donc en fait moi je me dis honnêtement ce qu'il fait là pour moi c'est le plus... C'est la progression et le développement de carrière le plus sensé, en fait. Il a eu ce stage tank, là il revient avec un stage où il est plus...
C'est dommage d'avoir besoin des défaites pour se rendre compte de ça. C'est juste ça, tu vois, par exemple un Kamaru Usman, il sort une très belle performance face à Colby Covington où il reste tout le temps debout, ensuite il affronte Jorge Masvidal, il redevient Kamaru Usman qui est un petit peu plus ennuyeux pour le premier combat, hein, qui se concentre, c'était un short notice pour les deux hommes bien évidemment, mais il se reconcentre sur la lutte et il finit 50-45, 50-45, 50-45, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir cette piqûre de rappel qui te dit bon, si t'as fait tout le combat en stand-up pour face à Colby Covington, on va pas refaire la même chose face à Jorge Masvidal parce que tu risques de te faire cuire. C'est juste ça que je trouve dommage, et surtout qu'il l'a prouvé contre Usyk le deuxième combat, Ruiz le deuxième combat, il fait quelque chose de complètement différent. Kubrat Pulev, quand il est revenu en décembre, il était revenu à un nouveau, enfin au Joshua qui était plus ou moins habituel. Donc tu vois, c'est là aussi où je me dis, je pense que c'est pas sa responsabilité bien évidemment, mais plutôt son coaching staff, tu vois, se dire que de temps en temps, ils ont besoin de ces piqûres de rappel pour dire bon bah il faut qu'on revienne à tel ou tel truc, parce que mine de rien Joshua, Paulie Thompson nous l'avait très bien fait remarquer. À la toute fin du combat, il était très 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 mal.
Ouais.
Il était vraiment mal. Et tu vois, tu te dis, ton boxeur, ton gars que t'accompagne depuis quasiment toujours, il est dans cette situation-là à la fin d'un combat. Tu fais, peut-être qu'on s'est trompé. Et tu vois, et même au cours du combat, on l'a regardé, on a entendu les instructions des coachs. Il y a aucun moment, ils ont fait comme ce que Rust a adoré avec
Sugar.
Exactement, avec Sugar, où il est là, chap. Chap the motherfucker. Ouais. Mais enfin, tu vois, où t'as un truc qui est vraiment clair et limpide, où tu, enfin, surtout que là, c'est juste, bah, rentre-lui dedans, en fait. Tu vois.
Bah, c'est en fait, et c'est ça, et ben, ça fait. Ce qui est bien, c'est que ça fait écho avec ce à quoi on a commencé le podcast sur le fait qu'il change d'entraîneur, mais le fait que dans un combat qu'il perd et qu'il perd clairement, que bah, c'est devenu presque un mème, et le mec s'est fait harceler, mais il s'est vraiment vraiment pris une volée de bois vert à cause de ça. Mais c'est qu'il était vraiment, bah, le fait qu'en plein combat, alors qu'il se fait dominer, ils sont en mode c'est brillant AJ. Bah non, c'est pas brillant, tu vois, c'est là, t'es en train de te faire vraiment outboxer de tous les côtés. Et c'est là où effectivement c'est là où c'est presque dommage, c'est que si ça se trouve avec un entraîneur différent, même avec la même préparation, si ça se trouve avec un entraîneur différent, tu mets un Sugar Hill à la place de Rob McCracken, ben je pense qu'au bout du quatrième round, Sugar Hill est en mode bon, changement de plan, là on va commencer à faire autre chose, parce qu'en fait sinon on va se prendre la saucée, quoi.
Mais c'est pas un petit mais par contre pour défendre Rob McCracken, je pense que durant tout le combat, et je pense que Joshua aussi pensait à ça, c'est effectivement nous durant les 12 rounds, chaque fois que Joshua commençait à lancer le bras arrière et avancer un petit peu, on était en mode oh putain ça sent très 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 mauvais pour Usyk, donc parce que bah il a l'avantage de, enfin il a la longe, il a la puissance, il a cette explosivité, donc t'es potentiellement à un bras arrière de tout changer. Et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit tous les deux tout au long du combat, c'est... On sait que Joshua, il y a pas mal de fois où c'était un petit peu... Bah, contre Povetkin, le début du combat est un peu chaud. Ensuite, il accélère.
Klitschko, il prend un knockdown avant de mettre son truc légendaire.
Voilà. Enfin, même contre Pulev, je crois que c'est au 8e round où il accélère vraiment. Et quand il accélère, clairement, c'est bye-bye, il n'y a plus personne. Donc, il y a aussi cette confiance-là, mais sauf qu'ils sont tombés sur un mec qui était insaisissable. Donc il y a peut-être ça aussi, que les deux étaient dans une certaine absence de sens de l'urgence, se dire « on sait ce qui se passe à chaque fois, là en plus, clairement, on pèse 9 kilos de plus, on est beaucoup plus imposant, il va finir par tomber, et en plus, il avait son énorme coupure Usyk. »
C'est ça, c'est clair. Mais donc, c'était risqué, quoi.
Ouais, c'était risqué.
Parce que, enfin... Là, en gros, on est en train de parler de grosso modo du fait qu'ils aient adopté à la limite peut-être une stratégie à la Wilder, ce qui est fou quand même. Et c'est pour ça que c'est vrai que s'il y a quelque chose qu'on peut leur reprocher, c'est peut-être le manque d'adaptation. Et c'est ce qui fait la marque du champion Anthony Joshua, c'est qu'il revient à chaque fois. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Là, l'analyse qu'il a faite pendant toute son interview de lui-même, de son combat, de ce qu'il a mal fait, de ce qu'il aurait dû faire, c'est vraiment, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment un vrai champion qui accepte sa défaite, se remet en question et repart. Mais effectivement, je suis plus que curieux de voir ce qu'il donnera, Anthony Joshua, une fois qu'il est avec un des quatre cavaliers de l'Apocalypse que tu as nommé au début.
Oh là 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 là. Oui, et parce que là, ce serait vraiment intéressant. Donc, Anthony Joshua, là, on ne sait pas qui il va choisir parmi les différents entraîneurs qui viennent, de Tuber, qui sont en tout cas à chaque fois aux États-Unis. Personnellement, moi, j'aimerais beaucoup pour le petit choc des cultures, et puis surtout parce que ça promettrait une petite team d'All-Star, que ce soit Eddie Reynoso, le coach de Canelo. Le seul point d'interrogation, quand même, c'est qu'il s'occupe aussi d'Andy Ruiz.
Après, ouais, faut voir, parce que bah, c'est ça qu'a dit aussi dans l'interview parfait raccourci, pour ce qu'a dit, comment dire, au moment où l'intervieweur parle à Anthony Joshua de Tyson Fury vous a proposé de vous entraîner, etc. Et d'ailleurs, ce qui est cool, parce que évidemment, Joshua a répondu, bah, quand tu veux, viens t'entraîner avec moi, etc. Il a même, il y est allé, et c'est ça qui est cool, tu vois, il s'est pas non plus laissé écraser en disant, bah oui, c'est vrai, qu'il vient de me donner des conseils, parce qu'il l'a dit, et ça, j'ai trouvé ça trop classe. Anthony Joshua a dit, bah pas de souci, je suis carrément ouvert à ce qu'il vienne, on peut même sparer, on peut même montrer les vidéos de sparring, et je suis carrément chaud pour qu'il me donne des conseils et tout.
On est d'accord qu'il y a 0% de chance pour ce que ça arrive.
Alors, eh ben, je sais pas.
Ok.
Parce que, en fait, justement, je ne sais pas, parce que...
On parle de mecs qui devaient s'affronter pour 150 millions de dollars.
Ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est que s'il y a des gens qui le stopperont, ce sera pas Joshua Fury, parce que je pense que les deux, en tant qu'hommes, ils sont trop chauds. Et c'est ce qui me fait dire ça, c'est que vraiment, c'était pas, il a pas juste dit « je suis chaud », il a expliqué pourquoi Joshua. Et il a dit, vraiment, en fait, dans un espèce de volonté de retour au old school, au guerrier. Et en gros, il a dit, mais ouais, parce que bah, moi, j'ai regardé des photos là, sur lesquelles j'étais tombé, où il y avait des champions, mais genre Joe Louis, Archie Moore, Mohamed Ali, etc. Bah, ils venaient tous se voir les uns les autres dans les camps d'entraînement. Il y a des photos où ils sont tous ensemble, ils se connaissent, machin. Et du coup, tu sens qu'en gros, Joshua, il est en mode... Mais en fait, moi maintenant, je m'en fous, je prends tout le monde. Il le dit d'ailleurs, mot à mot dans l'interview. Je prends tout le monde et revenons à un truc à l'ancienne où les mecs qui s'affrontaient même dans le ring devant des millions de gens, bah, ils faisaient des sparring ensemble, ils s'entraînaient ensemble, ils s'en foutaient. Enfin, je pense qu'il est vraiment là dans une mentalité où il s'en fout, il veut juste retourner un espèce de côté ultra guerrier. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ça peut se faire, à mon avis, le truc avec Fury.
Let's go Joshua, let's go Fury. En tout cas, moi, j'espère un nouveau Joshua pour la revanche. Reste avec quelque chose à ajouter, oui.
Non, bah après, c'était simplement pour le choix qu'il fera de l'entraîneur. En fait, ce sera vachement intéressant. J'imagine qu'il faut quand même qu'il en trouve un qui soit... Et c'est pour ça, pour finir, que je pense que le fait qu'il y ait Andy Ruiz chez...
Eddie Reynoso,
c'est peut-être pas un souci. En tout cas, je pense pas que ça en serait un pour Joshua. Parce que du coup, Joshua, lui, maintenant, il est en mode, bah, à la limite, revenons en mode à l'ancienne, tu vois, des poids lourds qui s'entraînent ensemble, etc. Et du coup, je pense que ça ne gênerait pas Joshua, peut-être un peu plus Ruiz, en revanche, ouais. que la superstar Poster Boy vienne dans son gym et s'entraîner. Peut-être que lui, il serait peut-être pas aussi chaud. Mais surtout, du coup, ce que je voulais dire, c'est ce qui sera très intéressant dans le choix de Joshua, c'est que ben, les entraîneurs, évidemment, n'étant pas des copies conformes, il va en falloir un qui soit. Bon, évidemment, il faut que ça clique humainement. D'abord, mais même au niveau du style, ça va être intéressant parce que chaque entraîneur a quand même le style, son style favori, un style qu'il développe, un style qui préfère travailler ou qui préfère donner à ses élèves ou en tout cas vers lequel il préfère l'orienter. Et ce sera intéressant du coup quand on aura le choix, bah on aura aussi une petite indication de quel type de Joshua on aura, quoi.
C'est clair. Et puis pour ajouter à Eliano, parce que bon, on va pas faire un podcast là-dessus également, mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est se dire avec la team Keno, c'est que tu vois que même si les gars sont des superstars, il y a vraiment un degré de rigueur qui est énormissime chez eux par rapport à ce que Canelo a dit sur Ryan Garcia, qui est pourtant son protégé. Hein. Et en gros, il lui a dit, bah là, tu te déconcentres un petit peu trop, t'as beaucoup trop de choses en dehors de la boxe. Enfin, c'est une interview qu'il a accordée à Complex et le gars dit ça. Tranquille, quoi. Donc,
C'est génial, j'ai adoré.
Alors que dans la plupart des cas, bah, vous avez un mec qui vous rapporte énormément d'argent, qui rapporte énormément d'argent à votre gym, qui gagne aussi, parce que même s'il s'est pris un knockdown lors de son dernier combat, il a terminé par TKO. Ryan Garcia est toujours invaincu, et je crois qu'il a une des ceintures intérimaires WBC, enfin en tout cas il est dans la shortlist pour un futur title shot. En tout cas, quoi qu'il en soit, généralement, même si on sait qu'il y a des trucs qui se passent pas très bien, personne n'ouvre sa gueule. Et là, qu'il y ait Canelo qui dit ça, et surtout que tout le monde est d'accord avec ça, enfin, vous regardez les réseaux sociaux de Ryan Garcia, le fait qu'à chaque fois le mec, pour différentes raisons d'ailleurs, il me déclare forfait des combats qu'il doit avoir, que ce soit blessure, soit il se sent pas très bien, soit on voit dans ses activités, c'est quand même ces derniers temps assez rare qu'il boxe, il est plutôt dans l'extra sportif, c'est rassurant je trouve, et qu'un Joshua qui est quand même, comme l'a dit Rust, poster boy, superstar, arrive dans un environnement comme ça, on va lui dire écoute mec là... là c'est juste la boxe et on s'en fout que t'aies tes réseaux sociaux et tous tes sponsors. Je trouve que c'est très très bien et ça ajoute au côté, je vais aux États-Unis, déjà je change de continent, donc il reste très connu mais un petit peu moins connu qu'en Angleterre, et en plus là il va être dans un environnement, tu vois, tout le monde parle espagnol et les mecs ils sont juste là
pour charbonner quoi.
C'est ça, et franchement j'aimerais bien, tu vois.
Non, de ouf. Et puis surtout là, ce que tu viens de dire est tellement, ça irait tellement genre en mode pôle sud pôle nord, tu vois, sur les magnettes, ça va tellement bien avec le côté qu'il a envie de revenir du côté combattant, guerrier, guerre, warrior, tout ce qu'on veut, avec Canelo et avec la team Canelo, là tu y es, c'est Sparte en fait. Enfin, c'est Canelo, c'est cette franchise avec laquelle il parle de Ryan Garcia, c'est probablement la même franchise avec laquelle il vit sa vie, avec laquelle que lui a insufflé son entraîneur. Tu peux effectivement, vu ce que tu viens de dire, y a fort à parier que Eddie Reynoso, et quand il faut dire un truc à Ryan Garcia, ou quand il faut en dire un truc à Canelo, il lui disent, je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Et un gym comme ça, pour quelqu'un qui veut venir en mode « maintenant je repars à la guerre », ce serait parfait.
Allez, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Big shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Big Rusty avec les gloves. Big Rusty, see ya very soon.
It's me.
On l'a déjà dit en début de podcast, mais on va le redire. De toute façon, vous les avez vus avec la superbe, notre superbe déco. Qu'est-ce qu'on peut dire de... C'est allé se barrer avec l'une des statuettes. Mais bref, voilà, vous le savez, hein, c'est magnifique. Il y a même validé par Yves Landu pour notre super Broly. Donc voilà, à la prochaine.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.